C'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Pour garder nos acquis sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la Delphine, la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bonjour, c'est une nouvelle émission de En bas à gauche qui commence sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM aujourd'hui, mardi 5 avril. Alors aujourd'hui au menu, une entrevue avec le père Henri, Padre Henry de la commission Justicia y Paz, la commission Justice et Paix de Colombie, un défenseur de droits humains et un militant très impliqué auprès des processus de résistance civile en Colombie, qui nous commentera la conjoncture actuelle en Colombie. Également, en deuxième partie de l'émission, pour souligner un triste anniversaire, demain 6 avril, c'est l'anniversaire de Freddy Villanueva qui a été assassiné par le service de police de Montréal. Donc, une entrevue sur le sujet, où en est l'enquête avec Freddy Villanueva et où en est le processus de déportation de son frère Danny Villanueva. Et en fin d'émission, comme toujours, notre petit anti-hebdo. Alors, je passe le micro à Blandine, qui est rejointe par téléphone par le padre Henry.
Oui, alors on va parler avec Henry aujourd'hui sur des questions d'actualité. Il est en tournée en ce moment au Canada, donc on va être en ligne avec lui. Alors, bonjour Henry.
Et bonjour, Vladine.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Non, ça va. Pour moi, c'est un plaisir de m'adresser à vous, à tous les gens qui écoutent, qui sont intéressés dans la situation et le contexte de la vie du monde.
Alors, je vais commencer par te demander de te présenter, puis de présenter la commission de justice et paix, cette organisation de droits humains en Colombie.
Oui, Justice et Paix, c'est une organisation des droits de l'homme qui fait d'accompagnement aux communautés qui ont été victimes de la violence et de la répression de l'État et des gens, des paysans, des Afro-Colombiens qui ont été touchés pour la violence d'État. Et voilà, nous faisons un accompagnement avec lui et surtout en dénonçant les situations des droits humains en Colombie, les vols de terre et toutes les affaires autour de la répression et les conflits armés en Colombie.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples des processus que vous accompagnez?
Et voilà, nous accompagnons des communautés afro-colombiennes qui ont été déplacées dans les années 1997 pour l'armée colombienne. Ils se sont organisés dans une expérience qui s'appelle zone humanitaire. Et les zones humanitaires qui se sont organisées à Cacarica, Jiguamiando et Curvarado, et aussi dans les communautés indigènes de Vijao Cacarica et Vijao Jiguamiando. Et voilà, ils se sont organisés, ils ont retourné chez eux et ont organisé une résistance civile et pour récupérer leurs terres et demander leur respect à leur vie.
Et le travail de la commission dérange des gros intérêts économiques et politiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des enjeux au niveau national auxquels vous touchez?
Et voilà, nous, en tant qu'accompagnateurs et défenseurs des droits de l'homme, nous avons découvert que derrière de la violence, il y a très gros intérêts économiques. Par exemple, dans une communauté indigène, et il y a une concession pour l'exploitation de or et de n'importe quel minéraux. Et dans cette affaire, il y a des intérêts nationaux, bien sûr, et surtout des intérêts internationaux. Et dans cette affaire est mise en question une compagnie anglaise, la Rio Tinto et la Muriel Company, mais aussi nous avons su que le groupe canadien TMX a acheté des actions de cette entreprise. Et voilà, dans cette région, les indigènes ont été bombardés pour l'armée colombienne. Et après, on commençait à faire des travaux pour installer l'entreprise d'exploitation minière. Et dans cette région aussi, il y a des intérêts très gros sur la plantation de palmes, la palme africaine. Et on détruit plus de 23 000 hectares de terre de la forêt tropicale pour s'aimer, pour implanter des huiles de palme. On dit que pour la production d'agrocarburantes, entre guillemets, biocombustibles.
Et justement, quand on dérange de gros intérêts comme cela, il y a aussi la commission devient elle-même une cible de cette même violence. Il y a régulièrement des menaces ou même des processus d'intimidation contre les membres de la commission. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Et oui, justement, le vendredi dernier, une de notre avocats, elle a reçu une menace par téléphone en disant qu'il doit partir de la Colombie à 48 heures, ou sinon il va être assassiné. Elle est la responsable des processus juridiques dans la cour colombienne. Il accompagne des communautés indigènes au Chocó, au Curvarado. Et il y a aussi des menaces contre notre secrétaire général, le père Alberto, et aussi contre des membres de la commission, Avilio Peña et Danilo Rueda. Ils sont menacés. Et il y a un autre jeune homme, Fabio, qui a été menacé. Il doit quitter la Colombie parce que son vie est en risque. Voilà, ça c'est une campagne qui a développé l'armée, les groupes paramilitaires, les entreprises contre nous, surtout une campagne médiatique en disant que nous sommes liés très proches aux guerrillas de FARC, mais jamais la justice a pu montrer que nous faisons ça. Mais toujours dans les médias colombiens, il y a des gros politiciens, par exemple José Obdulio Gaviria, qui est l'ancien assesseur du président Uribe. Il a fait des émissions de télévision en disant que nous faisons part de la guérilla et tout ça.
Et alors, au niveau de la politique nationale, justement, il y a tout un discours depuis quelques mois, puisqu'il y a eu un changement de gouvernement. Alors, on rappellera, le président précédent était Alvaro Uribe, qui était très connu pour des phrases déclamatoires contre les défenseurs de droits humains, qui rendaient facile la critique au niveau international de ce président, qui a été qui n'a pas pu se représenter pour une troisième fois. Et c'est maintenant le président Santos qui est au gouvernement, qui affiche un discours officiel de changement. Mais selon toi, sur le terrain, quelle est la réalité de ces changements-là?
Oui, c'est vrai qu'il y a un changement en discours. Et voilà, on voit les phrases contre les défenseurs des droits de l'homme, contre le mouvement social, contre les oppositeurs politiques. Mais la réalité montre une autre chose. Et dans les mois qui a été président, M. Santos, on a signé plusieurs leaders des communautés qui ont réclamé les droits à la terre, parce que les groupes paramilitaires sont toujours là, ils ont un contrôle dans les territoires, on a assassiné les gens, mais le gouvernement dit oui, nous ferons quelque chose, mais la violence contre les défenseurs des droits de l'homme sont toujours là, pardon, les défenseurs des droits humains, et sont les pans de chaque jour. Surtout, il y a des politiques qui ont été mises en place. Par exemple, les ministres de l'Agriculture ont mis en place une politique qu'on appelle les plans de choc pour donner de nouveau la terre aux paysans qui ont été victimes du vol de la terre. Mais ces plans, c'est un plan assez court pour répondre à la réalité très très grosse du vol de terre qui a vécu la Colombie depuis des années et des années. Et il y a aussi la réapparition de ces structures armées du groupe paramilitaire. Aujourd'hui, on a changé même les médias et les présidents et les gouvernements ont changé les noms. On parle de VARCRIN, c'est-à-dire des bandes criminelles. Mais sont les mêmes paramilitaires, ils sont toujours dans les mêmes territoires, dans les mêmes régions, mais les gouvernements les présentent comme des groupes qui sont nouveaux. Et voilà, mais on constate dans la région de Curvarado qui sont les mêmes structures militaires, qui sont les mêmes structures demandes, qui font les violations des droits de l'homme toujours comme avant.
Alors, tu nous parles justement de ces structures paramilitaires qui auraient été démobilisées mais qui sont encore présentes. Est-ce que tu peux nous faire un rapide historique là? Je sais que ça sera pas nécessairement complet là, mais de qu'est-ce que veut dire paramilitarisme et c'est quoi ses liens avec l'État?
Bon, les groupes paramilitaires sont des groupes armés très liés à l'armée colombienne, l'armée officielle. Sont des groupes liés au narcotrafic, sont groupes de mafieux, des civils, on peut dire, mais qui font le travail sale de l'armée colombienne. On a montré depuis quelques recherches que ces groupes ont été appuyés, soutenus et financés par l'armée colombienne. On vient de montrer comment il y a de très très forts liens entre les groupes paramilitaires, l'armée colombienne et différents politiques. Et on a vu aujourd'hui comment le processus de mobilisation qui a fait les ex-président Uribe sont des faux de mobilisation. Aujourd'hui, il y a des mises en question de ces processus parce que on a découvert qu'il y a des démobilisés qui sont faux paramilitaires et les vrais paramilitaires ont resté cachés devant la justice.
Et donc, un des enjeux, notamment en ce moment, de faire croire, en fait, qu'il n'y a plus de conflits armés et qu'il y a juste des bandes criminelles ou terroristes en Colombie, c'est notamment la signature d'accords économiques assez importants. Le Canada a signé récemment un accord de libre-échange avec la Colombie, l'Union européenne qui était aussi dans ce processus-là, et les États-Unis. Est-ce que quelle corrélation tu vois entre ces négociations et la politique nationale?
Oui, nous sommes très, très, très touchés avec la signature de cet accord de libre-échange avec le Canada et l'Union européenne, parce qu'on croyait que l'Europe et le Canada sont des pays très respectueux des droits de l'homme. Et voilà, nous avons vu qu'il ne regarde pas la situation des droits de l'homme en Colombie, où il ne reconnaît pas les conflits armés en Colombie. Et voilà, il y a des affaires très, très préoccupantes dedans la signature. Pour exemple, l'assassinat des syndicats et l'assassinat des afro-colombiennes, la culture de Huile de Palme, ils sont toujours une affaire chaude. Mais on voit que pour Canada et pour l'Union européenne, n'importe la situation, et nous sommes inquiets, très inquiets pour cette situation-là, mais on voit qu'il y a des intérêts économiques, même des entreprises, qui sont mises en question dans les situations de violation des droits de l'homme.
Alors, merci beaucoup, Henry. Si on veut avoir plus d'informations, est-ce que tu peux nous donner le site web de la commission en espagnol?
Nous avons un site web qui est www.justiciaypazcolombia.com.
Et d'ailleurs, si on a un auditoire de Gatineau qui nous écoute, malheureusement, tu viendras pas à Montréal dans cette tournée au Canada, mais il y a un événement jeudi soir organisé par Développement Épais à l'Université du Québec en Outaouais, donc allez voir sur le site de Développement Épais. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu les sujets que tu touches dans tes conférences et dans tes événements publics, puisqu'on n'aura pas le plaisir de pouvoir venir t'écouter à Montréal?
Bon, tout à l'heure, nous ferons un partage avec l'Université de Québec. Et sur la coopération internationale et la solidarité internationale, on voit comment est-ce qu'on doit agir, les organisations, et aussi au Canada, comment en Colombie, et comment est-ce qu'on fait la relation de la solidarité. Surtout voir qu'on doit changer les rapports entre le Nord et le Sud, parce que je viens d'entendre tout à l'heure que vous avez parlé des situations de violation des droits de l'homme ici à Canada, et il y a des violations des droits humains en Colombie. Et voilà, nous vivons une situation assez pareille, et nous devons faire une lutte ensemble. C'est pas une solidarité en une seule voix. Il faut faire une solidarité en double voix pour que les choses changent, pour que les choses bougent. Et surtout parce que nous, qui vivons un conflit armé, et nous pouvons réagir de plusieurs façons. Et nous pouvons donner des expériences de résistance civile et face aux violations des droits de l'homme.
Et comment sont les réactions ou comment voit cette proposition de dynamique de solidarité les groupes à qui tu as parlé ici?
Bon, je trouve que aux gens qui ont écouté les exposés que j'ai fait sont assez intéressés, parce qu'on trouve qu'il y a aussi des problèmes ici, des violations des droits humains, et droits à la santé, droits au logement, droits à l'éducation, à l'organisation. Et pour nous, c'est la même chose. Et on attire de très fortes attention. Et voilà, on commence à réfléchir en commun pour pouvoir et trouver des schémas, des solutions à notre à notre problème.
Merci beaucoup, Henry, d'avoir été avec nous. On te souhaite une très belle fin de voyage ici au Canada. Et justement, on va continuer notre émission en musique avec un groupe de hip-hop du Cacarica, les Renacientes.
Ah, merci beaucoup et voilà, une belle journée pour vous aussi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Queremos invitar pa' que unido como hermano empecemos a reclamar a todos los colombianos. Los queremos invitar pa' que unido como hermano empecemos a reclamar, porque hace mucho tiempo nos están asesinando, torturando y desplazando y no podemos reclamar. Porque hace mucho tiempo nos están asesinando, torturando y desplazando y no podemos reclamar. Y entonces para justificar nos titan de guerrillero. Y entonces pa' justificar nos titan de guerrillero. Esto sí duele, querido amigo. Esto sí duele, querido hermano. Esto sí duele, querido amigo. Esto sí duele, querido hermano. Los queremos invitar pa' que unido como hermano empecemos a retornar. A todos los desplazados los queremos invitar pa' que unido como hermano empecemos a retornar. Porque hace mucho tiempo nos están asesinando, torturando y desplazando y no podemos reclamar. Porque hace mucho tiempo nos están asesinando, torturando y desplazando y no podemos reclamar. Y como pa' justificar nos titan de guerrillero. Y como pa' justificar nos titan de guerrillero. Esto sí duele, querido amigo. Esto sí duele, querido hermano. Esto sí duele, querido amigo. Esto sí duele, querido hermano. Esto sí duele, querido amigo. Esto sí duele, querido hermano. Esto sí duele, querido amigo. Esto sí duele, querido hermano. Esto sí duele, querido amigo. Esto sí duele, querido hermano.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, vous écoutez En bas à gauche. Je vais en écouter une chanson, non pas de hip-hop comme annoncé, mais bien de Bayenato, une musique traditionnelles peut-être, en tout cas qu'on écoute beaucoup trop en Colombie. Et donc c'est des chansons qui sont écrites et jouées par les gens des communautés déplacées, accompagnées par Justicia y Paz, puisqu'on s'entretenait un peu plus tôt avec le père Henry de cette commission de défense des droits humains en Colombie. Et donc les communautés utilisent ce moyen de la chanson populaire pour raconter leur histoire de déplacement et de persécution subie de la part de l'État, et donc racontent leur histoire via ces chansons-là.
D'ailleurs, un petit point historique musical. Je suis loin d'être une fan de Bayonato, mais quand même mentionner que c'est pas la première fois que ça se fait. Le Bayonato est né des esclaves qui chantaient leur douleur, qui chantaient leurs journaux au quotidien, mais surtout les mauvais traitements qu'ils subissaient sous l'esclavage. Et c'est donc maintenant les descendants de ces esclaves-là, les communautés afrodescendantes, qui continuent à chanter leur martyre, qui continuent à chanter leur souffrance au sein du conflit armé en Colombie.
Et donc, on vous parlait de la Colombie en ce début d'émission. Aujourd'hui, on a un aveu à vous faire pour faire la promotion du journalisme communautaire. On est à la fois journaliste et militante, et donc le sujet de la Colombie nous tient à cœur, puisque Monde et moi militons sur cette question-là depuis quelques années au sein du projet Accompagnement Solidarité Colombie. Alors, on va prendre une petite minute pour vous en parler, Maude.
Oui, alors le projet Accompagnement Solidarité Colombie, donc le PASC, c'est une organisation, un collectif de gens bénévoles, militants, très dévoués, qui est né en 2001-2002 à Montréal. Donc, ce sont des gens qui se sont rencontrés suite aux mobilisations contre la zone de libre-échange des Amériques, qui a donc rejoint différents militants, militantes qui avaient à cœur d'appuyer les processus de résistance en Amérique latine et de promouvoir, un peu comme le padre Henry en parlait, une solidarité, non pas à double tranchant, mais à double voie. Donc, où c'est une fraternité ou un partenariat, si on veut, bon, le mot est mal choisi, entre des luttes sociales, entre des processus de résistance, donc autant au Québec, à Montréal, qu'en Colombie. Donc, le PASC a commencé à faire de l'accompagnement en 2003. Ce sont justement ces communautés afro-descendantes et métisses de la région dont on parlait tantôt, Cacarica, Riguamiendo, Curvarao. Donc, on est dans le Chocó, c'est-à-dire frontière avec le Panama. Le PASC a envoyé des gens pour accompagner ces communautés qui, suite aux déplacements forcés dont ils ont été victimes, retournaient sur leur terre. Et ce retour sur leur terre collective impliquait de très hauts risques, puisqu'ils ont été chassés, comme l'expliquait le padre Henry en 96, lors d'une méga opération armée. Les militaires, l'armée colombienne bombardait le territoire où ont fui des milliers et des milliers de personnes, alors que les troupes paramilitaires faisaient des incursions armées dans les villages, ont torturé, ont massacré, etc. Donc, une opération armée, mais surtout une opération de terreur pour que les gens quittent leur territoire. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Je vois la machine qui m'oblige à mettre une petite publicité. On pourra compléter le sujet au retour. Donc, on vous parlait du PASC. Vous pouvez voir le site web www.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Le Zoulou blanc rayonnera au Métropolis. Pionnier des métissages world, Johnny Clegg nous présente avec son groupe et deux danseurs son nouvel album The World is Calling. Une chance unique d'entendre l'ambassadeur multiculturel Johnny Clegg. Ne manquez pas cette soirée en or le samedi 8 avril au Métropolis. Billets en vente sur admission.com.
Raison pour changer votre matelas. L'usure du temps, la fatigue et le désalignement des ressorts, dommages causés par l'humidité, parasites, problèmes d'allergie, sommeil non réparateur, douleur au lever. Pour une ou plusieurs de ces raisons, afin de mieux dormir et pour votre santé, Lidor va vous aider. Pour votre nouveau matelas, c'est Lidor, 65-52 boulevard Saint-Laurent, juste au nord de Beaubien. www.lidor.com.
Spécialisé dans les traitements aidant à ralentir le vieillissement et le relâchement cutané et élaboré selon les protocoles de l'esthéticienne médicale Laura Magliano, les soins de la peau de chez Dermalis s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes. Visitez dermalis.ca.
Vous êtes à la recherche d'exotisme et de bien-être. À 200 vies vous sert un savoureux cocktail musical. Passez votre commande en consultant notre programmation au www.radiocentreville.com. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Alors, je disais donc que pour avoir plus d'informations sur le projet Accompagnement Solidarité Colombie, vous pouvez visiter notre page web www.pasc.ca. On cherche, en fait, les inscriptions sont toujours ouvertes pour les gens qui souhaiteraient réaliser un séjour d'accompagnement en Colombie. Il y a bien sûr une formation de 3 mois préalable au départ. Et vous pouvez également participer aux nombreuses activités du PASC, qu'il soit question de pièces de théâtre, d'expositions, photos, de conférences, bien sûr, d'un lancement de notre campagne contre les profiteurs canadiens de la guerre en Colombie, c'est-à-dire pour cibler les entreprises canadiennes qui sont responsables de l'alimentation, si on peut dire, du conflit armé en Colombie, qui participe à justifier les déplacements ou les violations aux droits humains, droits syndicaux, droits environnementaux et territoriaux, etc. Donc, sur notre site web, vous pouvez vous inscrire à notre liste d'envoi pour être tenu informé de nos activités et recevoir nos journaux et autres publications. Donc, www.pasque.ca. C'est ce qui clôt le sujet de la Colombie. Comme on vous disait en début d'émission, demain, c'est un triste anniversaire. C'est celui de Freddy Villanueva. Blandine, veux-tu nous présenter l'entrevue que tu as préparée?
Donc hier, je me suis entretenue avec Alexandre Popovic, qui est un des membres de la coalition contre la répression et les abus policiers, qui a notamment assisté à toutes les journées d'enquête de l'enquête publique dans le cas de Freddy Villanueva. Donc, il va nous faire un petit peu une mise à jour de la situation. Alors, je vous laisse avec l'entrevue sans plus tarder. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Alexandre, tu es membre de la coalition
contre la répression et les abus policiers.
Donc, il a été formé peu après la mort de Freddy Villanueva, il y a bientôt 3 ans. Donc, cette semaine, c'est une commémoration un peu particulière et spécialement difficile, j'imagine, pour la famille, puisque le 6 avril, ça aurait été l'anniversaire, en fait, de naissance de Freddy Villanueva, qui aurait eu 21 ans. Alors, on prend l'occasion pour se mettre un petit peu à jour sur le dossier de la famille Villanueva, puisqu'il y a plusieurs éléments. D'un côté, les suivis de la lutte contre l'impunité par rapport à la mort de Freddy. Donc, si tu pouvais nous rappeler un petit peu ces éléments-là. Et par la suite, on parlerait aussi du cas de son frère, Danny, qui risque la déportation.
Oui, d'accord. Alors, on a eu une très longue enquête du coroner relativement au décès de Freddy Villanueva. C'est une enquête qui a nécessité pas moins de 107 journées d'audition avec 45 témoins. Et malheureusement, le rapport du coroner va être retardé pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années, en raison d'une requête et d'une action en justice qui a été déposée par la Fraternité des policiers pour empêcher le coroner André Perrault d'examiner, de procéder à un débat public sur une question qu'on estime essentielle pour faire toute la lumière sur les causes et circonstances du décès de Freddy Villanueva, c'est-à-dire les mécanismes de sécurité de l'étui à pistolet de l'agent Jean-Loup Lapointe, puisque l'agent Jean-Loup Lapointe a invoqué une crainte d'être désarmé comme prétexte pour tirer sur Freddy Villanueva ainsi que deux des amis de Freddy qui étaient présents ce jour-là, soit Denis Méas et Jeffrey Sagar Metellus. Alors, l'enquête en tant que telle, la dernière journée d'audition a eu lieu le 24 février dernier avec le témoignage de Lilian Madrid Antunes, la mère de Freddy Villanueva. Cependant, le coroner doit attendre que les tribunaux supérieurs, la Cour supérieure du Québec, rendent une décision relativement aux requêtes dont je parlais de la ville de Montréal, c'est-à-dire l'employeur de Jean-Louis Lapointe et le syndicat de Jean-Louis Lapointe, la Fraternité des policiers. Et donc ça, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à la question de l'enquête du coroner en tant que telle. Maintenant, durant les plaidoiries qui ont eu lieu en février, les plaidoiries qui ont eu lieu devant le coroner André Perrault, les avocats qui représentent les intérêts des victimes dans l'enquête du coroner ont annoncé leur intention de déposer une plainte privée aux criminels contre l'agent Jean-Louis Lapointe pour les gestes qu'il a posés le 9 août 2008 lors de l'intervention policière qui a coûté la vie à Freddy Villanueva. La plupart des gens ne le savent peut-être pas, mais c'est possible pour n'importe quel citoyen de déposer une plainte privée au criminel. Cependant, c'est un processus qui est quand même assez lourd, puisque la plainte privée en tant que telle doit être autorisée par un juge ou une juge de la Cour du Québec. Et donc, il va y avoir une audience à huis clos, ce qu'on appelle une pré-enquête. Et au terme de cette pré-enquête-là, le juge ou la juge de la Cour du Québec va rendre une décision à savoir si l'agent Jean-Louis Lapointe va devoir faire face à des accusations criminelles pour les coups de feu qu'il a tirés sur Freddy Villanueva et Denis Meas et Geoffrey Sagar-Métellus le 9 août 2008. Donc ça, c'est ça fait partie des suites sur le plan judiciaire de ce qui est convenu aujourd'hui d'appeler l'affaire Villanueva.
Donc ça, c'est l'aspect judiciaire, mais est-ce que cette lutte contre l'impunité, est-ce qu'il y a d'autres recours, à part l'enquête publique et cette requête et cette demande privée, est-ce qu'il y a d'autres moyens qui ont été mis en place par la famille ou par les groupes de solidarité?
Toujours sur le plan judiciaire, il y a deux actions civiles qui ont été intentées contre la ville de Montréal et l'agent Jean-Louis Lapointe. Il y a une action civile qui a été intentée par la famille Villanueva et une autre action civile qui a été intentée par les deux jeunes blessés, Denis Meas et Geoffrey Sagar-Métellus, ainsi que leur famille. Et il y a aussi des procédures en déontologie policière contre l'agent Jean-Louis Lapointe. Ce qui me fait dire que il y en a encore pour un bon petit bout de temps l'agent Jean-Louis Lapointe à devoir rendre des comptes d'une façon ou d'une autre devant les différentes instances du système de l'appareil de justice québécois.
Puis quels sont les espoirs potentiels de ces différentes mesures-là? Est-ce que ça pourrait en venir à une condamnation criminelle ou est-ce que c'est assez peu probable de voir cette opportunité s'ouvrir encore?
Moi, c'est sûr que pour avoir été présent à chacune des audiences dans l'enquête du coroner, pour moi, c'est clair que il y a matière à accusation contre l'agent Jean-Louis Lapointe. Le problème, c'est que le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de rendre une décision de ne pas porter d'accusation criminelle avant la tenue de l'enquête du coroner, ce qui est un non-sens absolu. Mais vraiment, moi, ce que je peux dire, c'est que pour avoir été présent durant tout le long de cette enquête du coroner-là à titre de représentant de la Coalition contre la répression des abus policiers, je peux dire qu'il n'y a aucun témoin, et j'ai mentionné qu'il y en a eu 45, donc il n'y a aucun témoin civil qui est venu dire que les coups de feu qui ont été tirés par l'agent Jean-Louis Lapointe étaient justifiés. Et on se rappelle que Lapointe est venu dire que c'était de la légitime défense, qu'il avait une crainte pour sa vie, et ainsi de suite. Alors, c'est aucun des témoins n'est venu dire que Freddy Villanueva était menaçant lorsqu'il s'est avancé en direction de l'agent Jean-Louis Lapointe, alors que Lapointe était en train de maltraiter le frère de Freddy Villanueva, Danny. Donc, oui, il y a matière à espoir que, en fin de compte, Jean-Louis Lapointe puisse rendre des comptes devant la justice, devant même un tribunal criminel. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer. Mais moi, ce que je dis, c'est que il y a de la preuve, il y a de la matière à accusation au niveau criminel pour homicide contre l'agent Jean-Louis Lapointe, ça, la preuve, il en manque certainement pas.
Alors, tu mentionnais justement Danny, le frère de Freddy, qui était présent sur les lieux lors de l'assassinat de son frère en 2008 et qui, quelques mois avant d'être amené à témoigner devant l'enquête publique, a commencé à voir contre lui déployer une procédure en immigration qui est le retrait de sa résidence permanente en vue de sa déportation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette situation-là?
Oui, bien, ce qui est arrivé, c'est que en janvier 2010, alors que Danny Villanueva était sur le point de témoigner devant le coroner, l'Agence des services frontaliers du Canada s'est rappelé que Danny Villanueva avait été trouvé coupable pour un délit, c'est-à-dire avoir volé une chaîne au cou. Il avait plaidé coupable en avril 2006. Donc, presque 4 ans plus tard, il y a eu une procédure de déportation qui a été entreprise en janvier 2010. Et le 21 avril 2010, donc de la même année, il y a un commissaire à l'immigration qui a prononcé une mesure de renvoi contre Danny Villanueva. Et actuellement, Danny, il est en appel contre la mesure de renvoi et l'appel va être entendu dans le courant de la semaine prochaine devant la section d'appel de l'immigration. Et nous, au niveau du comité de soutien à Danny Villanueva, on a lancé un appel à un rassemblement de solidarité avec la famille Villanueva à l'occasion de ces audiences qui auront lieu le 12 et le 13 avril de la semaine prochaine, donc à compter de 8h30 le matin. Il va y avoir un rassemblement devant les bureaux de l'immigration, c'est-à-dire le complexe Guy Favreau situé au 200 René-Lévesque ouest, c'est près du métro Saint-Laurent, si je ne m'abuse. Et pour nous, c'est vraiment scandaleux de voir que les autorités s'acharnent à ce point sur la famille Villanueva. Pour nous, c'est clair que Danny ne serait pas l'objet d'une mesure de renvoi si un policier n'avait pas tué son jeune frère Freddy. Parce que c'est d'autant plus clair quand on sait que il y avait déjà eu un premier rapport qui avait été rédigé à l'égard de Danny Villanueva relativement à cette condamnation dont je parlais plus tôt d'avoir volé une chaîne au cou. L'Agence des services frontaliers du Canada avait rédigé un premier rapport en octobre 2007. Et ce rapport-là n'avait eu aucune suite. Il s'était retrouvé sur une quelconque tablette à accumuler de la poussière ou à jaunir ou je ne sais trop quoi. Et soudainement, un an plus tard, lorsque Freddy Villanueva tombe sous les balles d'un policier et que cet événement-là est suivi par une émeute spectaculaire dont les images font le tour de la planète, là, soudainement, Danny Villanueva devient quelqu'un d'intérêt pour les autorités et pour l'Agence des services frontaliers du Canada. Et même que ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'ils ont attendu quelques semaines avant le début prévu du témoignage de Danny Villanueva à l'enquête du coroner sur le décès de son frère avant de lui signifier une procédure pour lui dire « Là, écoute, Danny, on va te déporter du Canada, tu vas être interdit du Canada, tu vas être interdit de te trouver en territoire canadien d'ici la fin de tes jours », parce que c'est ça que ça signifie la mesure de renvoi qui a été prononcée en vertu de l'article 36.1A de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Puis justement, peut-être quelques mots sur cette loi-là. C'est le concept qu'on dénonce comme étant de la double peine, c'est-à-dire que les gens sont... Je pense que Danny avait donc purgé une peine par rapport aux accusations qu'il avait eues, et là, il y a une deuxième peine qui se retrouve appliquée. Est-ce que tu as quelques éléments là-dessus?
Oui, ben, pour nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est que le principe même de la double peine va clairement à l'encontre d'un principe qui, à notre sens, devrait être vraiment, vraiment intouchable, c'est-à-dire le principe de l'égalité de tous devant la loi. Et c'est ce principe-là qui est carrément bafoué avec l'application de cette double peine-là. Alors, les gens n'ont pas à être punis deux fois pour le même délit. Et l'autre problème aussi qu'on voit, c'est que au niveau du droit criminel, on sait que lorsque un tribunal doit rendre une sentence, il doit prendre en considération différents éléments. Et parmi ces éléments-là, il y a la réhabilitation. La réhabilitation du contrevenant, du délinquant, du criminel, en fait, peu importe comment qu'on l'appelle, de l'accusé. La réhabilitation doit être un critère qui est pris en compte lorsqu'un tribunal doit rendre une sentence. Cependant, lorsque l'accusé n'a pas la citoyenneté canadienne et qu'il fait face à une mesure de renvoi ou de déportation ou d'interdiction de territoire, c'est comme si on disait la réhabilitation, on n'y croit pas, on fait une croix dessus parce que vous n'êtes pas né au Canada, parce que vous n'avez pas la citoyenneté canadienne. Et ça, on peut vraiment pas être d'accord avec ça. Le Canada, c'est un pays d'immigrants. Ne l'oublions pas.
Alors, merci pour toutes ces informations. Alors, donc, deux rendez-vous le 6 avril, une vigile pour l'anniversaire de naissance de Freddy Villanueva et la semaine suivante, 12 et 13, comme tu nous le rappelais, solidarité avec les audiences avec Dany. Est-ce qu'il y a un site web pour avoir tous ces détails et ces informations?
Oui, c'est possible de visiter le site web de la CRAP, www.lacrap.org. On peut trouver beaucoup d'informations, notamment au sujet de la lutte contre la déportation de Dany Villanueva.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Tiré par un agent du SPVM, il était bien chill dans le territoire hostile. Mais dès qu'il est devenu victime, matin d'un projectile. What the fuck, c'est des coches, c'est la population. Aucune relation, aucune communication. Fait que ça tient aussi vie sous terre, misère. Je le connaissais pas, mais je le prends comme si c'était mon petit frère.
La justice et ma consternation, repose en paix. Condoléances à la famille, désolation et respect. Comme beaucoup réalisent la compétence policière. A-t-on besoin d'un drame pour éveiller la conscience populaire?
Plein de le prohibé, la minorité. Dans la rue, y'a trop d'abus, je condamne la société. Qui attend que le jeune meure, condoléances aux jeunes mères. Toute la jeunesse renaît, qu'en pensez-vous, monsieur le maire?
Ici, on crache pour mieux respirer. Ici, on marche pour pas oublier. On jouait dans le parc l'été, chantait liberté. Mais les jeunes ont changé. Ici, on crache pour mieux respirer. Ici, on marche pour pas oublier. On jouait dans le parc l'été, chantait liberté.
La tension qui s'installe me rappelle ce temps glacial. La ligne est mince entre le profilage criminel et racial. La haine peut se lire sur leur expression faciale. À part ça, je peux pas prendre une position qui était partiale. Harcelé par la police, martelé par la justice. J'entends des mères crier au loin, arrête d'écœurer mon fils. Je rends hommage à la famille, pas besoin de me remercier. Laissez-moi m'exprimer comme l'a fait Rémi Mercier.
Voici le nouvel ordre, la brise d'automne est remplacée par une crise d'octobre. Oublie les incendies, notre enfance est légitime. Le ghetto, c'est le résultat des commandements de Willy Lynch. Oui, c'est vrai qu'on avait vaincu Napoléon Bonaparte. Mais du cash, est-ce que de Napoléon un Bonaparte? Ici, la ville est tendue, nous vivons le pire des dangers. Vivonnez comme Steve Wonder, l'horizon de Stephen Harper.
Ici, on crache pour mieux respirer. Ici, on marche pour pas oublier. On jouait dans le parc l'été, chantait liberté. Mais les jeux ont changé. Ici, on crache pour mieux respirer.
Mais pas, laisse tes marques de
de sang sur le ciment. Mes pleurs dans le bar, ma mère seule survivant. Exclue de la table, les émeutes, notre seule voix. Mientras que fait le ciel au fleuri, observa. Un cierge, une lame, un prêt, les médias. Appel au calme, mais les excuses ne viennent pas. Que toute famille ne sait pas. Que réponse à telle annonce et qu'on l'a. C'est comme un angle sur notre groupe.
Le quartier souffre et porte le deuil dans son ventre. La famille pleure en silence pendant que la tension augmente. Les jeunes sont frustrés à un point que leur vie perd son sens. Car tout ça qu'on arrive à rien, car on agit par vengeance.
On souhaite de tout que ça arrête.
Villeneuve, une chanson de Cobna, La Dame de Pique, Voyou Dramatique, Métasson et Clermont, une contribution hip-hop qui a été faite après la mort de Freddy. Alors justement, comme c'était annoncé dans l'entrevue, il y a des événements cette semaine, demain, et des événements la semaine prochaine contre la déportation de Danny. Je vais passer la parole à Maud pour l'anti-hebdo et peut-être avant vous faire un petit mot. On n'a pas de date précise, mais très probablement aujourd'hui, dans les prochains jours, aux alentours de 18h, il va y avoir des vigiles et des manifestations devant le consulat français au 1501 rue McGill, organisé par la communauté ivoirienne pour s'opposer à l'intervention militaire des troupes françaises en Côte d'Ivoire qui a lieu en ce moment. Donc une autre vague militaire désagréable dont on vous parlera sûrement sur les ondes de Radio Centre-Ville et en bas à gauche. Alors Maud, qu'est-ce qu'on fait cette semaine si on a jeté notre télévision par la fenêtre?
Oui, alors Blandine, tu mentionnais une vigile, un événement en fait en commémoration pour rendre hommage à Freddy Villanueva qui aurait eu 21 ans demain 6 avril. Donc la famille et les amis qui soutiennent Freddy Villanueva ainsi que la famille dans son deuil mais également dans sa quête de justice contre l'impunité policière nous invitent à un grand rassemblement au parc Henri Bourassa. C'est donc demain, mercredi 6 avril, de 6h30 à 9h30. Et on demande aux gens de venir avec des bougies. Ça se prendra donc la forme d'une vigile. Demain soir également, c'est le lancement conjoint, le numéro spécial du Dominion sur la justice climatique. Donc, une revue qui sera intitulée A People's Forecast. C'est également le lancement de Resources, qui se trouve à être une nouvelle œuvre de Just Seeds, la coopérative d'artistes. Donc, Just Seeds, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau décentralisé de plusieurs artistes engagés à produire des œuvres visuelles qui reflètent leurs convictions radicales, sociales, environnementales et politiques. Donc, Resources, pour l'accent, présentera 26 œuvres imprimées grand format explorant les impacts toxiques et dangereux de l'extraction des ressources, alors que les consommateurs et consommatrices expérimentent des styles de vie plus verts. Alors, ce sera le lancement, donc, demain soir de Resources et, comme je vous disais également, du numéro spécial du Dominion. Donc, le Dominion qui se veut un magazine de nouvelles grassroots du Canada et qui parlera cette fois des changements climatiques et surtout du concept de justice climatique. Partout au Canada et à travers le globe, des gens s'organisent afin de souligner les impacts sur la vie humaine et sur les territoires des changements climatiques afin de s'assurer que des solutions mettent l'accent sur la justice sociale, sur l'égalité et sur l'autonomie et non pas seulement sur les compensations. On pense par exemple aux crédits de carbone et etc. Alors, si le sujet vous intéresse, vous pouvez rejoindre ce double lancement demain soir, 6 avril, mercredi, à la Casa del Popolo. Casa del Popolo qui est située sur le boulevard Saint-Laurent, 4873 boulevard Saint-Laurent. C'est un petit 5 à 7. On vous invite à venir papoter au comptoir avec les artistes et les journalistes. C'est tout pour demain 6 avril. Jeudi soir, ben écoutez, j'ai rien trouvé. Alors, je vous conseille de prendre un bon livre et de vous installer dans votre salon à flatter votre chat et à lire. Le vendredi 8 avril, dans le cadre des rendez-vous de la maison Normand Béthune, Blazing Trail, A Journey of the Indian Revolution. À l'occasion de la Semaine internationale de soutien à la guerre populaire en Inde, la maison Normand Béthune présente, bon, là, vous allez rire de mon accent, Blazing Trail, A Journey of the Indian Revolution, un documentaire qui raconte l'histoire du mouvement communiste révolutionnaire dans ce pays à partir du soulèvement historique de Naxalbari en 1967 jusqu'à la réémergence du mouvement maoïste au tournant du siècle. C'est l'histoire d'une lutte héroïque face à un ennemi brutal qui se présente frauduleusement comme l'une des plus grandes démocraties au monde. Donc, un documentaire qui sera présenté à la maison Normand Béthune vendredi 8 avril. La maison Normand Béthune, on vous rappelle, est située au 1918 rue Frontenac. La projection du documentaire, qui sera en fait en version originale anglaise, commence à 7 heures, vendredi 8 avril. On vous rappelle que les vendredis, il y a également... comme à chaque vendredi midi, les vigiles du Paju qui se tiennent
devant la librairie Chapter Indigo sur la rue Sainte-Catherine dans le cadre de la campagne de boycott.
Et maintenant, le samedi 9 avril, la grande marche de protestation « Son et noirceur de la guerre » qui est appelée par le collectif « Échec à la guerre ». Donc, c'est à midi et demi, samedi 9 avril. Je vous lis un peu la présentation, c'est ce qui va conclure l'émission, je crois. Le Canada est en guerre en Afghanistan depuis plus de 9 ans. En soutien à un gouvernement corrompu et en alliance avec des forces qui ne sont pas plus respectueuses des droits des femmes et des droits de la personne que ne l'étaient les talibans. Faisant fi de l'opposition de la majorité de la population, le Parlement du Canada a décidé de prolonger l'intervention militaire en Afghanistan. De plus, toujours sans débat public, le gouvernement a renforcé le virage militariste de la politique étrangère canadienne en annonçant en 2008 des dépenses militaires de 490 milliards sur 20 ans. Son dernier budget, annoncé le 22 mars, prévoyait faire plus que doubler les dépenses de recrutement militaire et d'entraînement de base en 2011-2012. Le Canada s'est enfoncé encore davantage dans la logique guerrière en annonçant sa participation au bombardement contre la Libye. Ses avions de combat sont rapidement intervenus et voici maintenant que c'est un général québécois qui prend le commandement de l'intervention de l'OTAN en Libye. D'ailleurs, sur le sujet, je vais faire une petite pub pour notre propre émission. Si vous voulez réécouter, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté notre émission la semaine dernière, on interviewait Michel Chossodowski sur la question de l'intervention du coup d'État, l'intervention en Libye qui a lieu en ce moment. Alors, pour réécouter cette entrevue, vous pouvez visiter notre site web de l'émission à enbasagauche.wordpress.com et vous pourrez télécharger ou écouter en ligne l'entrevue sur la question de l'intervention impérialiste en Libye, une entrevue avec Michel Chossodowski. Donc, je vous parlais de la grande manifestation qui aura lieu samedi prochain, 9 avril. Le rassemblement est à midi et demi à l'angle Président Kennedy et Blurry, donc au centre-ville. Le départ se fera à 1 h et c'est la manifestation « Son et noirceur de la guerre ». C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour cette émission d'En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-ville 102.3 FM. On vous retrouve...
Dieu, Yahvé, Bouddha, Allah et les dieux Hindous vous donnent rendez-vous à Radio Centre-Ville.
Écoutez en direct de la bibliothèque Henri Bourassa, l'école Carignan qui présenteront les 5 grandes religions.
Mercredi le 6 avril de 9h à 11h au 102,3 FM. Soyez-y!
tout va mieux quand nous adaptons les soins hospitaliers aux besoins des enfants. Opération Enfant Soleil, parce que les petits miracles n'arrivent pas seuls.
Aimeriez-vous donner un coup de pouce à votre chiffre d'affaires? Votre entreprise est-elle dans la grande région de Montréal? Aimeriez-vous rejoindre de nouveaux clients potentiels? Radio Centre-Ville vous invite alors à vous faire connaître davantage. Plusieurs auditeurs de diverses communautés de Montréal pourront entendre parler de votre entreprise sur nos ondes. Pour vous renseigner sur les communautés que nous rejoignons et sur les possibilités qui s'offrent à vous sur Radio Centre-Ville, téléphonez au 514-495-8836. 495-8836. Ou écrivez-nous à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de votre entreprise sur Radio Centreville.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centreville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centreville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.